L'intégrale des symphonies en 5 concerts avec 5 créations inspirées à vivre du 1er au 15 novembre 2012 au Théâtre des Champs-Élysées.
J'espère que pour vous, Beethoven sera comme moi l'entrée au paradis.
Tous nos concerts au 01 56 45 16 et sur concerts.radiofrance.fr.
Venez!
Viva l'opéra! La saison d'opéra filmé reprend au cinéma à partir du 19 septembre avec les Contes d'Hoffmann, Carmen ou Falstaff en direct de l'Opéra Bastille. La Chauve-souris à Vienne, Othello à Salzbourg, La Valkyrie à Milan, le tour des plus grandes scènes lyriques. Toutes les infos sur ugc.fr et francemusique.fr. Un événement France Musique.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet, c'est sur France Inter. Bip.
Je tenais à remercier Là-bas, si j'y suis, de nous avoir permis d'entendre Guillaume Durand parler de Bernard Arnault dans l'émission d'hier. Parce que c'est dans les propos de Guillaume Durand qu'il faut chercher l'explication de l'exode du plus grand patron de France vers la Belgique. C'est pas pour de l'argent qu'il est parti, comme le rapportent les mauvaises langues. Durand l'a très bien dit. Arnault, c'est un artiste, un esprit supérieur pétri de culture. Et sa passion, en dehors des produits de luxe, bien sûr, c'est la littérature. Or, il faut savoir que cet été, Bernard Arnault a lu Simone de Beauvoir sur le conseil de Caroline Fourest. Or, qu'est-ce qui arrive lorsqu'un esprit supérieur se confronte à une pensée supérieure de son acabit? Ça produit quelque chose dans sa tête. Nous, les citoyens lambda, si nous lisons Simone de Beauvoir, nous n'allons faire que répéter ce que nous avons lu. On ne naît pas femme, on le devient. Alors qu'un esprit supérieur, comme celui du patron de LVMH, il va l'adapter. Et ça va donner, on ne naît pas belge, on le devient. Fantastique, non? Ce qui est très différent de l'inverse. L'inverse, c'est Johnny. Lui, il est né belge. Et quand un belge demande la nationalité française, c'est parce qu'il est belge. Il n'a pas pensé aux impôts qu'il allait payer en France. Du coup, il est obligé de partir à Monaco. C'est quoi un monégasque? C'est un belge qui a eu l'imprudence de demander la nationalité française. Non, prenez plutôt exemple sur Bernard Arnault et méditez ce génial aphorisme. On ne naît pas belge, on le devient.
Bonjour, c'est François d'Aquitaine. Votre émission d'aujourd'hui montre l'impudence odieuse dont sont capables certains riches qui osent aller jusqu'à se plaindre quand ils s'exilent fiscalement. C'est totalement immoral et égoïste, mais au-delà de ces attitudes humaines qui sont vulgaires et barbares, si ces gens en profitent, c'est parce que l'Europe pose un vrai grave problème de démocratie à ses citoyens. Non seulement nous vivons dans la seule zone du monde où des États ont fait une monnaie sans pouvoir démocratique qui la gouverne, ce qui crée la crise des dettes publiques au profit des marchés financiers, et en premier chef de la City, donc au détriment des peuples, à travers l'endettement, mais qui crée aussi les conditions de la fraude fiscale qui est légale et qui représente près de 3% du PIB des États. Soit un montant environ 100 fois supérieur aux fraudes sociales des petits resquilleurs à la CAF ou au RSA. Mais ce n'est pas tout. Le TSCG, le futur traité, arrive. Les États et leurs rois, les présidents et premiers ministres vont maintenant provoquer la plus belle récession durable dans les pays qu'ils ont endettés. Chômage des jeunes Espagnols, 52%. Des jeunes Français, 26%. On enferme notre jeunesse dans une cage de fer d'une confédération technocratique voulue par des États qui refuse encore et toujours de créer un État européen démocratique au service de ses citoyens. L'heure de la solidarité entre tous les citoyens européens, très indignés des responsabilités des États, qui jouent à refuser un transfert de souveraineté pour garder intact leurs petits pouvoirs locaux, cette heure-là a sonné. Nous ne voulons pas d'une Europe impérialiste, mais pas davantage d'une Europe masochiste au service des marchés et des riches fraudeurs. Merci.
Oui, bonjour, Polo de Marcinelle. Je voulais quand même signaler que l'arrivée des exilés fiscaux français en Belgique donne pas mal de boulot dans la décoration et pour des artisans dans la rénovation de somptueuses villas. Et donc c'est pas mal intéressant, même si, comme le disait mon compatriote, le Belge est paresseux, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un problème pour tout le monde. Ils sont les bienvenus. Merci.
Voilà, à propos du sujet là qui est traité, lu donc dans le Canard enchaîné du mercredi 5 septembre. Je ne vous lis pas tout l'article, je conseille bien sûr qu'on le lise, « Mourir en Suisse ne paye plus ». Il y aurait 100 000 exilés en Suisse, à voir si tous sont exilés fiscaux ou pas, mais 100 000, ça fait pas mal. Je lis la fin de l'article. « Et cet avocat de conter une histoire instructive. Un milliardaire résident fiscal en Espagne, où les successions sont très peu taxées, meurt brutalement d'une crise cardiaque en Bourgogne, où il possédait une propriété. Une catastrophe pour son héritière, puisque compte tenu du lieu de la mort, elle allait devoir régler une facture à la française, location d'un avion privé, et le corps est parti en direction de l'Espagne, où un médecin complaisant a rédigé un acte de décès local. Les droits de succession ont été divisés par plus de 3. Voilà. Précision chronologique, ce déplacement de cadavre a eu lieu voilà plus de 10 ans, le délai de prescription en France en matière de droits de succession, convention franco-suisse ou pas. Je crois d'ailleurs que pour ce qui est aussi des droits de succession, c'est également moins cher en Belgique où ça va le devenir. À vérifier. Salut à tous.
Ouais, bonjour Daniel. Bon, moi je suis Vincent Boussac de Saint-Geneviève-des-Bois et qui vient de gagner 30 euros au jeu des 1000 euros. Non, je voulais dire à notre auditeur qui a plus d'un âne qui s'appelle Martin et donc il y a plusieurs Boussac. Moi, ma famille, elle est originaire d'Aviron et je crois savoir que Marcel Boussac, cette grande fortune, je crois qu'il était originaire de Châteauroux. Donc je n'ai rien à voir avec lui, je n'ai aussi rien à voir avec M. Bernard Arnault. Moi je suis très content d'habiter en France, à Saint-Geneviève-des-Bois, de payer mes impôts, voilà. Allez, salut, bonne émission.
Merci, merci pour ces messages, chers AMG. Ben oui, voilà, comme ça on sait qu'il y a M. Boussac, il y avait des allusions hier dans l'un des messages de Claude, je crois bien. Voilà, les choses sont claires. Aujourd'hui, on est avec Shlomo Sand. Auparavant, je voudrais vous dire que nous serons vendredi, ce vendredi, l'équipe de là-bas, si j'y suis, en direct depuis la fête de l'humanité, qui ouvre ses portes ben justement à ce moment-là, vendredi, et pour 3 jours, comme vous le savez. Et nous serons en compagnie des licenciels, ces femmes qui se sont regroupées, retrouvées, qui ont ceci en commun d'être licenciés, mais qui n'entendent pas se laisser faire et qui ont des projets, qui militent pour des lois, pour renforcer des lois contre les licenciements. On aura des avocats, on aura différents intervenants, des musiciens, comme d'habitude, comme chaque année. Et puis Jean-Luc Mélenchon viendra participer à cette émission, donc vendredi 15h en direct depuis la fête de l'humanité. Shlomo Sand nous a donné l'occasion, cet historien, ce grand historien israélien, d'être les protagonistes et les témoins d'une chose récurrente en France, dans notre beau pays, du, comment on pourrait appeler ça, le macartisme, du chantage à l'antisémitisme. Oui, il y a 4 ans exactement, nous avons reçu Shlomo Sand qui publiait un livre intitulé « Comment le peuple juif fut inventé ». C'était au mois de septembre 2008. Son livre avait eu jusque-là très peu d'écho, un article dans Le Monde diplomatique, et nous avons fait un entretien sur ce sujet, sur le travail qu'il avait accompli sur ce thème. Et je lui avais dit, ce livre ne va pas marcher. Et je me suis trompé. Heureusement, il n'a pas marché tout de suite. Pendant plusieurs mois, effectivement, le livre n'a pas marché. Puis tout d'un coup, il a décollé en France. Il a été un grand succès. Il y a un grand succès aussi mondial, puisque le livre a été traduit dans une 20aine de langues, etc., sur ce thème de l'histoire du peuple juif, qui n'est pas forcément ce qu'on croit, ce que les juifs croient eux-mêmes, et ce que les autres croient sur les juifs. Ça a été une déconstruction, et qui a passionné, qui a créé des polémiques, parfois des blocages, des insultes, mais aussi pour beaucoup une découverte, une perception différente de l'histoire. Et ce livre donc a eu un grand succès, pas seulement en Israël mais dans le monde, et nous sommes ravis d'avoir été à la base un petit peu de ça, assez fiers de ça. Mais ce qu'on a pu remarquer à l'époque, c'est effectivement les mois qui ont suivi, des mois de silence apeuré, qui témoigne une fois de plus de ce terrorisme intellectuel qui règne dès qu'il s'agit des questions de l'identité juive, de l'histoire d'Israël, qui est pourtant évidemment une histoire absolument passionnante, parce que c'est une histoire politique avant tout, et qui nous concerne. Vous allez voir comment Shlomo Sand, lui-même qui a fait une partie de ses études en France, dit des choses qui ont évidemment pour nous, républicains, vivant dans un État-nation, etc., des échos extrêmement profonds et précieux. J'allais dire. Donc là, il publie un second livre, « Comment la terre d'Israël fut inventée, de la terre sainte à la mère patrie », et il revient sur un thème récurrent, de façon permanente, concernant Israël, à l'intérieur de l'État d'Israël, mais aussi dans le monde juif et dans le monde en général, c'est l'opposition juive au sionisme, c'est-à-dire comment le judaïsme fut instrumentalisé par le sionisme. Que les religions soient instrumentalisées par le politique, nous sommes rompus à ce genre d'exercice, à ce genre d'épisode dans nos histoires, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, que sais-je, hindouistes, etc. Et là, on est à nouveau dans les conséquences de cette instrumentalisation. C'est une heure absolument passionnante à laquelle je vous convie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Pour répondre à la mère en colère parce que sa fille est dans une classe de 36 enfants, une petite section de maternelle, je lui réponds que c'est pas le tout d'être en colère, car comment ça se transforme, ce genre de critique ? Les gouvernements successifs, et l'avant-dernier en particulier, ont organisé la coupe réglée de l'éducation nationale. D'ailleurs, le président de l'époque constatait avec satisfaction qu'il n'y avait plus personne dans les rues. Mais il faudra que ces gens en colère, bon, il y a les parents d'élèves, mais il y a aussi les salariés, les consommateurs, ils sont des fois les trois en même temps. Ils m'expliquent comment dans leur coin ils pensent changer le monde. Moi je crois qu'ils louvoient dans ce système et mettent en place des stratégies individualistes, par exemple comme le recours au système éducatif privé dans le cas de l'école. Ils fuient les organisations syndicales. Pourtant le MEDEF en est bien une qui défend les intérêts des patrons. Eux ils sont malins, ils ont compris. Quand ces gens en colère décideront-ils de rejoindre les corps intermédiaires, syndicats et associations déjà constitués ? Car cette colère, une fois exprimée, doit se transformer en contre-pouvoir fort et organisé par ce biais. Personnellement, je ne vois pas d'autre solution. C'est Noël de Nantes.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Daniel, bonjour les AMG. Voilà, je voudrais tout simplement donner mon soutien aux salariés de chez Peugeot. Moi-même, je suis passé par cette situation et je trouve cela totalement aberrant que l'on ferme une usine comme ça en France. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de mots. Salut, ciao, ciao.
Il y a environ 2000 ans, dans un pays brûlé par le soleil, s'est déroulée une histoire si extraordinaire que depuis, cette terre s'appelle la Terre Sainte. Pendant que les Juifs attendaient, qu'ils étudiaient les livres des prophètes, qu'ils se disputaient entre eux pour savoir quand le Fils de Dieu apparaîtrait dans le monde, Jésus, le Fils de Dieu, était réellement prêt de venir sur la terre.
Ah bon ? Et comment ?
Je vous raconterai cela demain, mes enfants. Alors, à demain.
À demain.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas si j'y suis, avec Shlomo Sand. Comment la terre d'Israël fut inventée, de la terre sainte à la mère patrie.
Flight number 2, arriving from New York.
Shlomo Sand, on va commencer par cette phrase que j'ai notée dans votre bouquin. La lettre d'un lecteur qui vous a été envoyée sur le livre précédent. Votre livre m'a libéré, je me croyais juif, en fait je suis normal. Alors, je vois toutes les oreilles qui sont en train de se dresser oui. Derrière les transistors. Disant, mais de quoi on parle ? Votre livre m'a libéré, je me croyais juif, en fait, je suis normal. C'est un lecteur qui vous a adressé ça suite au livre dont nous avions parlé ensemble il y a 4 ans, presque exactement 4 ans, « Comment le peuple juif fut inventé ?» Un livre qui a eu un retentissement par la suite assez considérable, aussi bien, on l'avait évoqué à l'époque, en Israël, où à l'époque il était déjà un best-seller. En France, vous allez nous raconter un petit peu la réception de ce livre.
Le premier, oui.
Le premier livre. On va d'abord un peu faire le résumé du premier livre. Comment il a été reçu en France et dans le monde, puisque maintenant vous en êtes à 20, traduit en une vingtaine de langues. Et on va d'abord faire le résumé peut-être de ce premier bouquin, sa réception, sa vie, et avant de parler de celui que vous publiez ces jours-ci chez Flammarion, comment la terre d'Israël fut inventée, de la terre sainte à la mère patrie, comment la terre d'Israël fut inventée, ça c'est le tome 2, mais revenons au premier, comment le peuple juif fut inventé. Racontez-moi la réception de ce bouquin.
Comme vous avez mentionné, il y avait des lettres. D'ailleurs, il a dit, oui, peut-être que je suis juif, mais vous savez, exactement comme tous mes voisins, je suis normal, c'est un psychiatre de 85 ans, cette lettre. C'était une des centaines de lettres que j'ai reçues de la part de ceux qui sont juifs, qui se considèrent comme juifs, et des non-juifs, et des arabes. Et bon, j'étais invité partout. Et soudain, moi, je suis devenu célèbre. Un petit historien de Tel Aviv.
Oui, oui, enfin, il ne faut pas faire le modeste. Hein.
Bon, mais de toute façon, c'était une surprise. Et je me souviens hein, qu'à cette époque, comme c'était publié la première fois en France, vraiment, j'étais tellement heureux qu'on a passé des 2000 copies. Mm-hmm. Et après, bon, ça a grandi plus en plus. Et ça a pris une importance, pas seulement en France, aussi en États-Unis, New York Times, Wall Street Journal. Vous pouvez imaginer que Wall Street Journal a dû faire une critique. Les réceptions étaient différentes. Hein,
selon France, les pays, oui.
Selon
oui.
les pays, il y a des sensibilités idéologiques différentes. Par exemple, en France, avec les critiques ou les réceptions chaleureuses, on n'a pas parlé sur les gènes juifs, ADN juif. Mais par contre, une des critiques contre mon livre de la part du monde anglo-saxon, surtout américain, était l'ADN. Le New York Times, par exemple, a fait une interview pas mal, sauf à la fin, elle dit, mais on a contacté un généticien juif, il a dit, voilà, il y a un ADN juif, donc les juifs sont un peuple ethnie, etc. Bon, la semaine dernière, ça a paru en Chine, je ne sais pas encore comment la réception sera en Chine.
Shlomo, tout le monde n'a peut-être pas lu le livre, on va essayer, on va pas refaire une émission sur ce livre d'il y a 4 ans, mais on peut quand même le résumer en quelques mots. Parce qu'il y a une articulation, évidemment, avec ce deuxième...
C'est-à-dire que j'ai écrit le deuxième à cause de certaines critiques face au premier.
Alors, ce que vous disiez, en gros, vous allez me corriger dans ce premier livre, c'est, contrairement aux idées reçues, la diaspora juive n'est pas liée à l'expulsion des Hébreux de la Palestine, ce que nous croyons tous. Nous pensons que, voilà, il y a eu un peuple qui était là-bas, dans l'actuelle Palestine-Israël, voilà.
Et les Romains sont venus.
Les méchants Romains sont venus, ont chassé tous ces gentils juifs qui sont partis les uns vers l'Europe, et c'est les Ashkénazes, les autres vers le Maghreb et l'Espagne, ce sont les Séfarades, et puis ces gens priaient sans cesse en disant l'année prochaine à Jérusalem, et puis un beau jour de 1948, ils sont enfin 67, mais enfin 48, ils ont eu enfin leur pays. Et voilà en gros le schéma que nous avons tous dans la tête. Je pense que c'est aussi le schéma que les enfants israéliens ont à peu près dans la tête et qu'on leur enseigne. Et c'est ça que vous avez déconstruit à travers ce bouquin, en nous rappelant, ou en nous faisant découvrir, que le judaïsme a été une religion prosélyte comme les deux autres,
oui.
Et qu'à certains moments, des peuples ont pu être convertis au judaïsme, dont les Berbères, dont les Khazars, qui ont pu être ainsi convertis. Donc vous avez déconstruit complètement...
Oui. Sauf que je dois... Ce n'est pas parce que je suis modeste, mais je ne crois pas que je suis un inventeur de quelque chose. J'ai ramassé des matériaux. Et c'est le premier livre que j'ai écrit comme universitaire que je ne savais pas la fin. Vous savez que... À l'université, on vous apprend de savoir exactement quelle sera la fin de l'histoire. Mmh. C'est le premier livre, j'ai commencé à le lire, et je ne savais pas comment je vais continuer. Mmh. Et je me souviens un jour, lire un petit article sur l'exil qui n'a pas lieu. Donc j'ai commencé à chercher à la bibliothèque de l'université de Tel Aviv des livres sur l'exil, c'est-à-dire comment les Romains, les méchants Romains, ont exilé. Mmh. Je me souviens le jour, je suis à la bibliothèque, cherchant des livres sur l'exil des Juifs. Tout le monde sait qu'il y avait un exil, sinon comment il y a des diasporas en exil? Et je ne trouve pas. je m'approchais à mes collègues qui sont des spécialistes d'époque et je demandais pourquoi il n'y a pas de livre sur l'acte d'exil des Romains. Très vite, j'ai vu que quelque chose cloche, c'est-à-dire pourquoi cette volonté, ce désir profond de dire que les Juifs étaient exilés. Bon, très vite, j'ai compris que c'est un problème, comment dire, des fantasmes, mythes nationaux, et justifié, évidemment, le grand retour des Juifs sur la terre de Palestine. Donc, si vous voulez, les premiers livres, je les ai composés, les pensées profondes, ethnocentriques, que malheureusement, beaucoup de descendants des Juifs ont jusqu'à aujourd'hui. Si les Français aujourd'hui, qui sont devant moi ici, dans le... À la
attention,
radio.
Il n'y a peut-être pas que des Français là-dedans. En fait.
Non, ils sont des Français, d'origine différente, comme tous les Français. Hein. Ils sont des, comment dire, mélangés. Et voilà. Mais aujourd'hui, cette génération de jeunes Français ne croit pas qu'ils sont des descendants directs des Gaulois. Mais vous savez que la plupart des Israéliens croient qu'ils sont les descendants directs des Hébreux, des anciens Hébreux, des anciens Juifs. Et voilà, mon livre dit, non, vous êtes comme tout le monde. C'est-à-dire, vous êtes un mélange, un grand mélange. Et le judaïsme était le premier monothéisme prosélytique. Si vous êtes instinctive, vous venez à Tel Aviv. Vous pouvez voir de belles filles à Tel Aviv, avec des couleurs différentes, des têtes différentes, des corps différents. Et c'est bizarre, parfois, je suis devant mes classes, regardant mes élèves, avec toutes les couleurs d'ailleurs, qui croient qu'ils viennent directement de David le roi. Vous comprenez? Il y a 100 ans ici en France, beaucoup de vos parents ont cru qu'ils sont les descendants des Gaulois, s'ils n'étaient pas justement des enfants des émigrés. C'est terminé. Les gens allemands ne croient pas qu'ils sont des descendants des Teutons. À rien. Et les Français ont cessé de croire qu'ils sont des descendants directs des Gaulois. Les Anglais savaient déjà, parce qu'ils sont tellement mêlés par des conquêtes, ils savaient qu'ils ne sont pas des descendants directs. Mais, et c'est ça fantastique, beaucoup de Juifs croient qu'ils sont directement liés avec David le roi. J'ai écrit le premier livre contre ce concept ethnocentrique, même parfois raciste, qui nuit à l'existence d'Israël aujourd'hui.
Yankel quit the West Side Daisy, eh? Went cross town and joined YMCA. Soon Bacon and Pork he began to enjoy. Took off his yarmulke, Yid was a guy. I said, hey, Yankel, take a walk on the kosher side. I said, hey, Nudnik, take a walk down Fairfax. And the members of a Das ago. I sure was shocked when he heard the news. He couldn't believe that he and Jesus were both Jews. He said, how can we be the same? Bendis long hairs, got a Mexican name. I said, hey, Hirsch, take a walk on the kosher side. I said, hey, Nudnik, take a walk down Fairfax. And the members of it have to go. Yeah, sure, a girl, a thing like that, boy. You know what's gonna happen? Your mother finds out about a thing like that. You'll make a hot. Let me out of here, Eddie. I gotta go get a sandwich or something. I can't take this anymore.
Alors, le livre a eu un succès en France, des papiers intéressés, intéressants, avouant découvrir quelque chose, discutant, polémiquant, parfois bravement contre vous. Et puis, il y a carrément eu des insultes. On vous a traité de négationniste, oui. De négationniste soft. Qu'est-ce que ça fait quand... Vous aimez bien la castagne, vous êtes un intellectuel conséquent, donc vous attendez à des réactions. Mais qu'est-ce que ça fait quand même quand on se fait traiter de négationniste dans la presse française, y compris dans des grands journaux quotidiens français de l'après-midi?
Oui, je ne peux pas dire que j'ai eu un plaisir avec ça, parce que J'étais à côté de mon ami Pierre Vidal-Naquet, comme il est sorti attaquer le négationnisme. J'étais juste à côté de lui à cette époque étudiant, mais très proche. Et je me souviens qu'il m'a montré des papiers contre le négationnisme avant que c'était publié. Et soudain, être considéré par des personnes ici intellectuelles négationnistes, en début, ça m'a choqué. Après, j'ai dit, mais pff, en Israël, il n'y a pas de négationnistes. Et le phénomène de négationnisme est marginal, en fin de compte. C'est-à-dire, il n'y a pas de grands professeurs négationnistes. Il n'y a pas d'universitaires sérieux qui sont négationnistes. À mon avis, on a gonflé ce négationnisme. Et voilà, on m'a collé pour fermer la bouche. Vous savez, on m'a traité comme un traître du peuple juif. Il y avait ceux qui ont dit, Hitler n'a pas réussi à détruire le peuple juif. Et voilà, Shlomo Sand réussit le faire.
Ça, c'est la première, évidemment. Cette accusation-là, elle était prévisible. Vous
l'avez
pensé en écrit.
Ah bon ? Non, parce qu'en Israël, j'ai été attaqué, mais personne n'a pas pensé en Israël que je suis négationniste. Parce que j'ai écrit des choses à propos des Shoah, à propos des nazismes et tout ça. C'est-à-dire, j'écris un livre sur le cinéma, et il y a un chapitre entier sur le Shoah et le cinéma face au Shoah. Et à propos du négationnisme, c'est très, très parisien.
C'est ça, parisien. Ouais. Parlez-moi un petit peu aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays. Est-ce que vous êtes heurté au même...
J'étais insulté. À Londres, moins qu'à Paris. C'est très intéressant. Et c'est intéressant, à Berlin moins qu'à Paris. J'étais reçu à Londres beaucoup mieux qu'à Paris. Certains historiens anglais, et des grands historiens, comme Eric Hobsbawm a dit, sans qu'on se connaisse personnellement, il a dit qu'il ne croit pas que livre change le monde, mais s'il y a un livre qui peut le faire, c'est cet livre-là.
Oui, alors vous le citez, Eric Hobsbawm. Hein.
Oui, sur une autre chose. Pas sur moi-même. Hein. Non,
oui, oui.
Comme étudiant en histoire, j'ai toujours admiré les historiens anglais comme Thompson et Hobsbawm. J'étais très, très proche d'eux. Je ne sais pas si vous connaissez ici en France le nom de Terry Eagleton.
Oui, oui.
Donc il a choisi mon livre comme le livre d'année, c'est-à-dire... Je n'ai pas compris. Et après, comme le New York Times, le Wall Street Journal et les autres grands journaux américains ont commencé à écrire sur le livre, et j'étais invité à New York, à Los Angeles, partout. Dans le monde anglo-saxon, il y avait moins de violence, à mon avis, qu'il y avait en France, je crois, oui. Mais aussi, il y avait des historiens en France qui ont accueilli le livre comme un chef-d'œuvre. Non, franchement, je crois que je suis plutôt comme cet enfant dans la petite histoire d'Andersen qui montre que le roi est nu. Mais cet petit enfant n'est pas un génie, vous comprenez? Je suis plutôt cet enfant, plus de sagesse, je crois que dans mes livres, il y a du courage.
Alors, comment la terre d'Israël fut inventée, Shlomo Sand, de la terre sainte à la mère patrie? On passe maintenant, après avoir évoqué le précédent, au livre que vous publiez ces jours-ci, comment la terre d'Israël fut inventée. Évidemment, ça va faire du bruit, ça va faire grand bruit pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a une légende qui est installée. On a parlé des mythes qui, évidemment, sont extrêmement puissants, en l'occurrence. Et évidemment qu'à la naissance de tout État, il y a des mythes, il n'y a pas que des vérités, il y a toujours des histoires qui servent tout à la fondation des États. Et vous commencez par une réflexion sur le processus constitutif des nations, comment se sont formées les nations de façon générale. Vous ne parlez pas forcément uniquement d'Israël, mais vous nous donnez un cours très intéressant pour nous, les Français, qui vivons dans un État-nation accompli, l'un des rares qui soit complètement intégré avec on a mélangé tout le monde, on est un des rares et qui a servi de modèle, entre autres, et vous nous racontez comment ça s'est passé. Et on passe, c'est passionnant de voir comment, c'est une histoire très récente.
Hein, les patries, c'est très récent.
Oui.
Premièrement, comme dans le premier livre que je donne une certaine base théorique à propos des nations, dans cet livre, j'ai essayé la première fois d'expliquer qu'est-ce que ça la patrie, c'est-à-dire le territoire national, et la mère patrie, comme vous disiez en français. Et j'ai découvert, bon, c'est une invention très récente, et en France surtout, c'est la Révolution française qui apporte ça vers les masses, l'idée qu'il y a que la terre nationale appartient à la nation. Et moi, je crois que la démocratie joue un grand rôle. La démocratie dans le sens que l'État appartient au peuple et pas au roi. Et à ce moment-là, si l'État appartient au peuple, ça veut dire que la terre aussi, c'est une propriété collective. Et voilà une des origines de cet rapport avec les territoires qui a fait plein de guerres les derniers 150 ans. On ne peut pas laisser un kilomètre de la patrie. On ne peut pas laisser une parcelle de la capitale qu'on a. Vous comprenez, c'est une sorte de capitale physique, territoriale des nations.
Ça a entraîné les grandes guerres du XXe siècle. Ça
oui, Verdun, vous pensez, sur un demi-kilomètre, combien de gens sont morts?
C'est 350 000 et 500 000 blessés sur
Verdun. Vous pouvez imaginer,
Verdun,
pour un demi-kilomètre, ils ont continué à courir, courir et courir. Et si vous allez aujourd'hui à Verdun, et je mentionne ça dans le livre, il y a des touristes de partout en Europe et personne ne regarde les passeports. C'est incroyable qu'est-ce qui s'est passé durant 100 ans.
Oui, enfin, on a repoussé les frontières maintenant. Elles sont à l'extérieur de l'Europe et elles sont aussi terribles qu'elles le furent
à la fin,
jadis entre les Allemands et nous.
Comme je ne suis pas un grand optimiste, je dis qu'il y a de nouvelles frontières.
Oui, oui.
Il y a une frontière de cette civilisation que vous avez l'habitude, dernièrement, d'appeler une civilisation judo-chrétienne. Ça me dérange beaucoup le terme judo-chrétien, vous savez, parce que je suis historien et je sais qu'est-ce que le rapport était entre chrétiens et juifs à travers 1500 ans. Donc, je préfère le rapport juif-musulman à travers 1300 ans, d'accord ?
Oui, mais un peu moins barbare encore pour l'instant.
Les musulmans étaient moins barbares
bien
que
sûr,
les
ce que
chrétiens.
Hein. Oui, bien évidemment.
Les démarches et général, j'examine froidement qu'est-ce que ça les patries, et après je demande une question. Est-ce que les juifs ont eu une patrie pendant 2000 ans? Voilà, est-ce que dans les consciences juives, et comme je parle sur les juifs, c'est une grande religion, le judaïsme, est-ce que dans le judaïsme, il y avait une notion d'une patrie? Et c'est ça le point de départ. J'ai essayé de prouver à travers ce livre, le premier chapitre, c'est montrer que dans la religion juive, et j'insiste, il n'y avait pas aucune idée des patries.
Je me sens, quand on dit l'année prochaine à Jérusalem, qu'est-ce que ça veut dire?
Vous savez que chaque année, des musulmans vont à Mecque. Donc, ils ne pensent pas que Mecque, c'est une patrie. Et l'année prochaine à Jérusalem, les juifs ont eu des rapports profonds avec une terre sainte, avec un lieu saint. Mais vous savez que vivre dans un lieu saint, ce n'est pas confortable. C'est-à-dire l'activité que nous faisons quotidiennement peut nuire à une terre sainte. Les Juifs ne voulaient pas vivre dans une terre sainte. Ce n'est pas confortable de vivre dans un lieu saint. Je ne crois pas que les musulmans vont vivre tout le temps à Mecque. La Mecque, vous comprenez? C'est-à-dire, on est malade, on fait l'amour. Tout ça, ça ne marche pas avec l'activité d'un lieu saint. Donc, pour les Juifs, Jérusalem était très importante, mais plutôt comme une notion métaphysique. D'ailleurs, ils ne sont pas allés.
Vous avez tout un passage sur le pèlerinage. Ça, c'est
oui, ce pèlerinage, c'est chrétien. C'est-à-dire, bon, les Juifs ont un peu essayé de suivre, mais le pèlerinage à la Terre Sainte était plutôt chrétien et pas juif. Il y avait des pèlerinages juifs, mais assez marginal. Jérusalem, la Terre Sainte, était importante. C'est un axe central dans la... comment dire, dans le bagage de croyances juives, mais pas, ce n'est pas une notion d'une patrie qu'il faut revenir, et c'était interdit, et c'est important.
Qui interdit et, le judaïsme?
Le judaïsme a interdit, et le Talmud a interdit les juifs d'émigrer en Palestine, ou la Terre Sainte, ou la Terre d'Israël. Ils ont interdit parce que tant que le Messie n'arrive pas, c'est un péché d'aller là-bas.
C'est ça.
Et surtout pas avec, comme collectif, avec les forces. Surtout pas.
Yeah. Yeah.
Ce qu'on oublie souvent, c'est que aujourd'hui, l'histoire telle que nous la concevons très sommairement, c'est que le sionisme s'est imposé et a fini par installer, créer cet État. On oublie complètement que le sionisme de Herzl, enfin celui des pères fondateurs, a été très critiqué, qu'il y a eu toutes sortes de sionismes, de gauche, de droite, et que, puisque vous évoquiez les religieux, il y a eu des oppositions extrêmement fortes au projet sioniste au cours de cet accomplissement, du point de vue des religieux, comme du point de vue d'autres points de vue politiques, les bundistes, etc. C'est quand même pas mal d'évoquer ça.
Oui. Herzl impose l'idée d'État juif. Et c'est intéressant. Le judaïsme organisé dans les communautés juives, dans les synagogues, dans l'école juive, je peux dire, en généralisant, qui était opposé à une position radicale à l'idée sioniste. Je parle des grands rabbins de toute l'Europe. Il y avait un courant très, très marginal des religieux qui a soutenu le sionisme, mais très marginal. Et très modéré d'ailleurs, c'est très intéressant. Mm-hmm. Pas seulement ça, c'est-à-dire les grandes parties juives de l'Europe de l'Est, comme le Bund, mm-hmm. qui était majoritaire, beaucoup plus important que le sionisme, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher, courir vers la Palestine pour faire un État? Le Bund n'a pas compris, les rabbins s'est opposé, et j'ai pu dire aussi...
Le Bund, pour simplifier, c'était un mouvement d'extrême-gauche socialiste, comment vous le définissez? Mouvement socialiste
Mouvement socialiste, extrême-gauche, vous savez, le terme extrême-gauche est toujours géographique et historique, ça dépend à quelle époque vous êtes extrême-gauche et à quelle époque vous êtes gauche modérée. Hein. Oui. Je n'ai vu pas appeler Bund... Les mouvements sionistes et socialistes de masse, anti-sionistes, qui rêvaient à une autonomie culturelle pour le peuple yiddish, qui a une langue, qui a une culture quotidienne. J'utilise le terme. Comme je n'applique pas le mot peuple juif, j'applique le mot peuple yiddish, à cause qu'il y a une culture quotidienne vivante. Cette culture juive de l'Europe de l'Est a disparu sous quatre coups. Les pogroms et l'immigration vers l'Ouest, jusqu'à San Francisco. Ça, c'est le premier coup. Le deuxième coup, c'est la révolution soviétique et bolchevique qui a essayé d'anéantir cette culture yiddish d'une façon administrative. Le troisième coup, le plus sévère, c'est le nazisme qui a liquidé une grande partie de ce peuple yiddish. Et le quatrième coup, c'est le sionisme qui a rayé la culture yiddish de la carte culturel israélien. Je ne mets pas sur le même niveau les quatre coups. Hein. Je ne compare jamais le sionisme au nazisme, par exemple. C'est idiot et inutile, vraiment stupide. Maintenant, pour être franc, je crois que ceux qui ont dit aux Juifs de l'Europe de l'Est qu'il faut partir ont eu raison. Mais plutôt ceux qui ont donné le conseil de partir vers les États-Unis ou vers l'Argentine. Vous savez que les colonisations sionistes de Palestine, c'est rendu possible seulement, vraiment, après le Shoah. Vous savez, par exemple, jusqu'à la Première Guerre mondiale, avec les pressions des pogroms, des tsarismes, les Juifs ont quitté leur lieu. Ils ne voulaient pas. C'était leur patrie. Ils ont quitté. Mais ils n'ont pas allé vers Zion. Ils n'ont pas allé vers Palestine. Ils ont émigré. Pour vous donner un exemple, 1917, avec la déclaration de Balfour, 40 000 peut-être, 50 000 sont venus en Palestine. Et 2,5 millions sont arrivés sur le continent américain. Donc aujourd'hui, avec les visions, il faut comprendre, le sionisme, l'idée d'État juif, était marginale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
On continue, Shlomo Sand, ou plutôt on revient en arrière. Moi, je voudrais maintenant vous développiez tout ce que vous pouvez nous dire sur le mot « Eretz Israël ». C'est un des rares mots d'hébreu que je connais, c'est-à-dire la terre d'Israël. Ça, c'est, vous dites, ce terme de terre d'Israël est littéralement absent des textes juifs sacrés et de la pensée juive jusqu'au sionisme proprement dit. Or, on nous dit toujours, notre droit sur cette terre est inscrit dans la Bible. Voilà notre droit de propriété sur ce pays, nous disent les amis israéliens ou les sionistes israéliens, et nous disent, voilà, la Bible montre, ouvrez ça, vous allez voir que ça prouve que nous sommes chez nous, c'est écrit dans ce bouquin, maintenant vous n'avez plus rien à dire. Qu'est-ce que vous répondez?
Premièrement, on peut appuyer dans l'Internet sur le mot Eretz Israël, la terre d'Israël, et voir comment ça apparaît dans la Bible. Le terme apparaît dans la Bible seulement comme les terres le royaume du Nord. Jérusalem, dans la Bible, ne se trouve pas dans la terre d'Israël. Vous pouvez imaginer ?
Ah oui, c'est difficile.
Jérusalem ne se trouve pas dans la Bible, dans la terre d'Israël. Terre d'Israël, c'est seulement, vous savez, que c'est dans les territoires occupés aujourd'hui, de Nord, hein, d'accord ? C'était inventé à l'époque talmudique comme un terme religieux, pas vraiment territorial. Si vous voulez, c'est le sionisme très tard comment s'utilise le terme terre d'Israël, ça veut dire un concept, c'est-à-dire un rapport propriétaire. C'est-à-dire, cette terre appartient aux Israël, peuple d'Israël. Le concept géopolitique, terre d'Israël, sens moderne, c'est une invention sioniste. Et j'essaie de montrer. Dans les Talmud, on utilise ça par rapport à une terre sainte. Dans la Bible, c'est seulement la terre des royaumes du Nord. Et seulement les sionistes traduisent ça, comme le titre dit, et ils essayent de former une patrie pour les Juifs. Donc, il y a beaucoup de Juifs, même à Paris, des gens qui se considèrent comme Juifs, qui sont que, oui, c'est une patrie un peu loin, beaucoup de soleil, mais mieux vivre ailleurs. La majorité des Juifs ne veut pas émigrer. Que ce sera clair. Pour eux, être Juif, les malheureux, c'est ne pas être arabe.
Ah, c'est ça.
C'est ça, la définition, la vraie définition. Pour les sionistes qui étaient laïcs, parce que ce n'est pas les religieux qui ont bâti cet État, c'était quelque chose comme ça. Dieu est mort, mais il nous a promis la terre.
Ouais, c'est une phrase magnifique, ça. C'est une phrase magnifique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces sionistes ont littéralement instrumentalisé la religion, instrumentalisé le judaïsme, ce que vous appelez la nationalisation de Dieu. C'est-à-dire que le judaïsme a servi de substrat mythologique au sionisme, et c'est une sorte de détroussement, parce que le judaïsme, est-ce que le judaïsme pour autant s'en est trouvé modifié, s'en est trouvé défiguré ?
Pour la majorité écrasante des juifs, c'est-à-dire des religieux, le sionisme a commencé à le nationaliser à partir surtout des 67. Une des grandes professeurs israéliennes qui s'appelle Ishao Leibovitch, qui était une juive très pieux, il a senti que quelque chose marche mal, c'est-à-dire en place de Dieu, les vraies choses sacrées, c'est la terre. Et déjà, les rabbins du début des siècles l'ont dit, le sionisme va tuer Dieu et le remplacer par un État et par la terre. Et si vous voulez, à partir de 67, comme enfin Israël arrive au vrai lieu saint, sacré, à ce moment-là commence un processus de nationalisation fort de la religion juive en Israël et aussi ailleurs. Je peux dire qu'en début du 21e siècle, le nationalisme a gagné la religion.
Spielt euch liebe Kinderlach, der Frühling schon beginnt, der Frühling schon beginnt. Euch wie bin ich Kinderlach, mehr keine Einheit sind. Euch wie bin ich Kinderlach, mehr keine Einheit sind.
Shlomo Sand, je te rappelle encore le titre du bouquin. Comment la terre d'Israël fut inventée, de la terre sainte à la mère patrie. Vous avez évoqué 1967. On aurait pu commencer l'entretien avec 1967, parce que c'est le début du bouquin. Dans le bouquin précédent, comme dans celui-là, vous dites qui vous êtes, vous dites d'où vous parlez. C'est pas du tout pour vous mettre trop en avant, mais vous tenez à dire, voilà, l'une des raisons, parmi les raisons qui me font écrire, qui me font dire ces choses-là, voilà la façon dont je les vois, voilà ce que j'ai vécu. Et vous évoquez 1967. En 1967, vous aviez 19 ans, 20 ans, 20 ans ?
Oui, vous étiez un soldat de 20 ans qui...
Racontez votre 1967.
C'est-à-dire, oui, j'étais mobilisé à la guerre... Et on m'a envoyé à Jérusalem, donc j'ai combattu à Jérusalem, donc je suis une des coupables du fait qu'il n'y a pas une paix maintenant au Proche-Orient. Je crois qu'il y a une responsabilité générale, j'ai une partie de cette responsabilité générale. Donc j'ai été à la guerre à Jérusalem, et je me souviens ces jours, six jours, et je me souviens avant, un jour avant que je suis allé à Jérusalem, j'ai traversé les frontières de 67. Et je raconte ça en début de livre, j'ai senti que je sors de mon pays. Je traverse les frontières. Bon, il y avait des mines une partie de nous ont été tués et blessés. Et moi, je suis parti parce que je rêvais de partir d'Israël. J'étais jeune, pauvre, et je voulais voyager, venir à Paris, etc. Et j'ai dit, voilà la première fois que je sors de mon pays pour être un touriste, c'est dans la guerre. Donc, je suis un touriste de guerre. Donc, c'est la première fois que je sors et très vite, je comprends. Parce que tous les soldats à côté de moi, ils disent « Non, non, c'est ça le vrai.
Ouais.
Eretz Israël, la terre d'Israël. » Et je raconte dans mon livre comment, un jour après le combat qui était très dur, un quart de nous était tué, on nous a amené à la Kotel, c'est-à-dire les murs, les fameux murs. Et comme j'ai dit, j'espère que personne ne sera blessé. Vous savez, on a traversé toute Jérusalem occupée. C'était le 6 ou le 7, je ne me souviens pas exactement. Il faut traverser toute la ville et on marche quelque chose comme 2-3 heures avec une grande paire. Et même que j'étais jeune à 20 ans, je voulais pisser. Excusez-moi l'expression, on dit ça, c'est-à-dire aller aux toilettes, on ne pourrait pas entrer dans un café, une ville occupée. Donc on arrive à la Kotel, on enlève les armes et tout ça. Donc, on n'a pas pissé sur la côte.
Voilà, parce qu'on arrête. Non, savoir.
Moi, je n'ai pas pissé sur la côte. Respect à mes amis des combats, qui c'était pour eux important, cher, etc. Il y avait entre nous des traditionnalistes, des religieux, etc. J'ai dû pisser sur le mur des maisons arabes, qui après sont disparues, vous savez, pour faire cette grande place de prière. Mais moi, personnellement, et je dois admettre, je n'ai pas eu aucun sentiment en face des pierres. Et qu'une, c'est-à-dire, c'était pour moi quelque chose de bizarre, ce phénomène. On ne m'a pas éduqué d'admirer des sables, des pierres, vous comprenez, des rocs. On ne m'a pas éduqué ça. Et à partir de ce moment-là, à mon avis, le sionisme libéral de gauche commence à perdre son rôle historique. À partir de ce moment-là, il ne pourrait pas résoudre. J'essaie d'expliquer dans le livre. Comme les premiers livres, j'ai essayé d'expliquer qu'on ne peut pas être une vraie république qui s'appelle juif et il faut être une république israélienne de tous ses citoyens israéliens. Dans sept livres, j'essaie d'expliquer les contradictions profondes des sionistes de gauche, de bon cœur, etc. Ils réclament les droits historiques des juifs sur cette terre après 2000 ans. Mais si on réclame les droits historiques, d'ailleurs, pour moi, c'est un fantasme, mais c'est important de comprendre que s'il y a un droit historique, c'est plutôt sur Jérusalem de l'Est arabe, c'est plutôt sur Hebron, c'est plutôt sur Bethléem. Donc, les sionistes de gauche, qui cherchent avec moi un compromis de deux États, etc., se trouvent à partir de 67 dans une attrape-nigo. Parce que s'ils mettent en question les droits historiques, voilà quelle est la justification de dire qu'Israël appartient aux Juifs du monde. Mais je ne mets pas en doute le droit des Israéliens aujourd'hui vivre dans un État israélien, dans une République israélienne, que ce sera clair. Mais je ne crois pas que les Juifs du monde ont les droits historiques sur cette terre.
Vous répétez que parmi vos étudiants, vous avez des Arabes israéliens qui parlent parfaitement hébreu, qui sont des érudits.
Ils me corrigent
sur des trucs. Et que ces Arabes israéliens ont moins de droits sur les terres israéliennes, sur Eretz Israël, que vous dites toujours qu'Alain Finkielkraut peut en avoir.
Oui, c'est-à-dire.
C'est quand même une contradiction.
Vous savez, je suis étonné. Il y a des intellectuels français d'origine juive qui se croient juifs, qui réclament une république presque jacobin aujourd'hui en France. Et je n'arrive pas à comprendre la logique que qu'est-ce qui est bien pour la France n'est pas bien pour Israël. Je parle sur des Arabes israéliens, mes élèves, qui après les lois et l'esprit des lois, cet État ne l'appartient pas parce que c'est un État des peuples juifs. Ça veut dire que Finkielkraut et Levi ont cet État beaucoup plus que mes élèves et mes collègues arabes en Israël. Pour moi, comme un bon républicain, un démocrate, et je ne rigole pas, c'est insupportable. L'État appartient à tout le monde, à tous ses citoyens. J'ai expliqué dans mon premier livre que si on continue avec ça, plus tard, ces Arabes israéliens, qui une grande partie entre eux, veut être israélien, arabe israélien, mais israélien. Tout le monde parle hébreu, Mais chaque étape qu'il devient plus israélien au point de vue culturel, il devient plus anti-israélien au point de vue politique. Je souhaite qu'Israël ne va pas venir s'approcher à une situation comme Kosovo. Qui dit que demain, ils sont majoritaires, l'Arabie israélienne au Galilée. Qui dit que demain, cet État, c'est l'État des Juifs et pas des Israéliens. Nous voulons une séparation. C'est-à-dire, nous voulons un petit Kosovo. Du point de vue démocratique, ils vont avoir raison. Mais ça nous amène à une tragédie très, très lourde.
Quel est l'état de l'opinion de vos compatriotes israéliens par rapport à ces questions-là? Est-ce que vous les sentez plutôt prêts à aller vers cette voie d'un État israélien normal, comme un autre?
Ou comme un autre.
Comme un autre, une république. Quand vous parlez de république, ça me fait penser que vous avez été élève de Madeleine Reberiou.
Entre autres.
Entre autres, et une grande spécialiste de Jaurès. On voit quand même que vous avez une influence française, de la culture française, dans vos façons de,
oui, oui,
de voir les choses. L'état de l'opinion chez vous par rapport à ça, on vous situe, parce qu'il ne faudrait pas croire que vous êtes un énergumène qui sort de n'importe où. Il y a toute une lignée d'historiens et d'intellectuels israéliens qui ont travaillé sur ce quoi vous travaillez aujourd'hui. On a eu les nouveaux philosophes qui ont mis, les nouveaux historiens, ouais, qui ont mis en lumière ce qu'on a appelé le péché originel d'Israël, sur la façon dont cet État est né, sur la Nakba, sur le massacre des Arabes palestiniens et comment ils ont fui, etc. Vous décrivez d'ailleurs,
à la fin
du livre, la maison où vous habitez aujourd'hui.
C'est sur un village arabe amical. 48, un village très amical des mouvements sionistes. Les plus grands villages en nord de Jaffa. Les postfaces des livres. J'essaie de traduire les macrocosmos à un microcosmos. Mm-hmm. Pas seulement la maison que j'habite, l'appartement, je n'ai pas une maison, mais l'université, mon lieu de travail. C'est-à-dire, en nord de Tel Aviv, il y a un quartier qui s'appelle Ramat Aviv. Et toute Ramat Aviv, tout ce quartier, c'était un village amical qui ne voulait pas entrer dans le conflit à 48. D'ailleurs, pas de massacre. On a fait pression qu'ils quittent. Ils ont quitté, ils ont eu peur. Ils ont quitté. Même Golda Meir a demandé à 49 s'il ne faut pas faire revenir au moins l'Arabe qui était très ami. Parce qu'ils ne voulaient pas le conflit, ils voulaient garder leur village, ils voulaient garder leur terre. Vous savez, je ne crois pas qu'un jour réfugiés palestiniens vont revenir sur cette terre.
Qu'est-ce que vous souhaitez? Il faudrait bien que vous soyez clair sur le retour. Ouais. Parce que,
oui, il y avait des Palestiniens qui ne m'aiment pas à cause de ça.
Voilà.
Je suis négationniste. Beaucoup de Palestiniens...
Non, parce qu'il y a quand même... On sait maintenant comment ces Palestiniens sont partis, comment vivent-ils dans les camps de réfugiés, Liban, Jordanie, etc. Et vous, vous dites non au retour.
Oui. Tous mes deux livres expliquent que je suis contre les lois de retour.
Pas de retour non plus pour les Juifs.
Bien sûr, c'est-à-dire, sauf les cas qu'il y a un Juif qui est persécuté quelque part, oui, oui. Mais non, c'est les lois de retour, je m'oppose parce que c'est une loi qui est basée sur une idée raciste. Si quelqu'un réclame les droits de retour de 5 millions pour un pays qui a 6 millions de judo-israéliens, c'est comme proposer à la France d'accepter...
Non, mais on sait très bien que tous ne rentreront pas. La plupart ont fait leur vie ailleurs.
Daniel, si je peux vous appeler Daniel. On ne peut pas accorder un droit en sachant que personne ne va les prendre. D'ailleurs, je ne crois pas. Ça, c'est malhonnête. Moi, je crois que les Palestiniens ont les droits sur la terre de Palestine et de Tel Aviv, de Jaffa. Mais pas droit de retour, parce que ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer à éduquer des petits-enfants dans les camps de réfugiés en Jordanie, en Syrie, en Liban, en lui disant qu'un jour, vous allez retourner à Jaffa, Haïfa. Moi, je crois que c'est criminel de les éduquer, les faire grandir avec cette rêve. Et je suis pour les rêves qui puent se réaliser. Je suis beaucoup pour des rêves et j'ai des rêves personnels. Vous savez, les gauchistes voulaient remplacer les réalités par les rêves, l'histoire par l'utopie. 30 ans après, ils ont jeté l'utopie. Moi, je dis que l'utopie doit exister comme directive, pas remplacer les réalités. Les Palestiniens doivent être récompensés avec... Il faut reconnaître les droits sur cette...
Indemnisés.
Ah oui, et okay. Pas seulement ça. Si je m'oppose au droit de retour palestinien, je ne m'oppose pas à un retour réel de certains Palestiniens qui étaient chassés à 48. Je ne peux pas parler sur un retour de 5 millions, mais je crois qu'Israël doit faire un acte dans le processus de prêt d'accepter une partie des Palestiniens qui ne menace pas la morphologie culturelle actuelle en Israël, parce que ce ne sera pas possible de faire la paix, vous comprenez ? Non, on ne peut pas se divorcer des Arabes. On va vivre, ceux qui veulent vivre en Proche-Orient doivent savoir qu'ils vont vivre avec des Arabes. Et s'ils ne veulent pas vivre avec les Arabes, qu'ils aillent à Paris. Je parle sur les Israéliens. Donc, il faut avoir deux États, passer par les voies des deux États, mais confédérer, immédiatement bâtir une confédération. Et peut-être un jour, l'Europe va accepter cette confédération, comme il a accepté le Chypre, il va accepter Palestine-Israël. Pas de paix sans reconnaissance, il ne faut pas mentir. Nous avons volé, nous avons pris une terre des autres, et j'ai conclu le livre. Mais si je n'ai fait aucun compromis sur l'analyse historique, sur les choses que je crois les vérités historiques, sur le niveau politique, comme je dis, c'est le royaume des compromis. Le problème n'est pas Israël pour moi. Le problème aujourd'hui est Palestine. Et j'espère que chaque Français qui veut la paix au Proche-Orient soutient avec toute la force que Palestine sera acceptée dans les Nations Unies.
Merci, Shlomo.
Merci à vous.
Merci Shlomo Sand, je rappelle le titre de son bouquin qui va faire grand bruit évidemment. Comment la terre d'Israël fut inventée, de la terre sainte à la mère patrie chez Flammarion. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission, vos commentaires évidemment sont attendus, également sur notre site là-bas.org, là-bas.org, et puis vous pouvez jeter aussi un œil sur la page Facebook de l'émission. Une projection du documentaire « Verrou Israël » de Camille Clavel sera organisée le 18 septembre au 3 Luxembourg, rue Monsieur le Prince à Paris, suivi d'un débat avec Shlomo Sand, Dominique Vidal et Camille Clavel. Florent Layani et Aveline Carmois étaient à la technique aujourd'hui. Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission assistée de Pierre-Yves Bulteau et Solène Cordier attend vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37 réclame. On est en retard.
SNCF, aujourd'hui, la rentrée à petit prix.
Bonjour, je ne suis actuellement pas disponible pour l'enregistrement de ce spot radio. Et oui, avec tous ces petits prix, j'ai prolongé mes vacances à la plage et à la campagne aussi. Et pourquoi pas à la montagne? Merci de me recontacter ultérieurement ou de laisser un message après le bip.
Ah, bon, jusqu'au 25 septembre, profitez de billets TGV des 30 euros pour des voyages du 14 septembre au 21 octobre. Offre soumise à condition, également disponible avec Intercité. SNCF.
Demain, la Bassie Suisse est en direct à 15h depuis la fête de l'humanité sur le stand de Radio France avec les licenciels, avec entre autres Jean-Luc Mélenchon. À demain donc, 15h. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Le projet de fusion de ADS avec BAE Systems ne date pas d'hier. Dans le journal Le Monde aujourd'hui, Marwan Laoud, le directeur de la stratégie de ADS, explique avoir prévenu Angela Merkel et François Hollande dans le courant de l'été. Des réunions de travail ont d'ailleurs eu lieu avec l'Élysée au mois de juillet. Toujours selon Le Monde, c'est fin mai, juste avant que Louis Gallois ne cède les rênes de ADS à l'allemand Enders, qu'est née l'idée de cette fusion qui pourrait donner naissance au numéro 1 mondial de l'aéronautique, loin devant Boeing. ADS et BAE Systems se sont donnés jusqu'au 10 octobre pour finaliser le projet ou l'abandonner. Aujourd'hui, selon une source proche du gouvernement allemand, le gouvernement allemand justement serait réservé sur cette fusion. La France, elle, préfère ne pas commenter les négociations. De son côté, le syndicat britannique UNIT réclame des garanties sur l'emploi. 174 retraités italiens profitaient d'aides sociales indues en Italie tout en vivant aux États-Unis ou en Amérique du Sud. La police financière italienne vient de les démasquer. Elle a saisi ainsi 173 propriétés, 56 terrains et 59 comptes bancaires appartenant à ces fraudeurs présumés qui étaient officiellement enregistrés comme résidents dans des villages balnéaires de Calabre dans le sud de l'Italie. Ils touchaient des revenus qu'ils ne déclaraient pas. L'arnaque a coûté aux caisses de l'État italien environ 5 millions d'euros. 1700 salariés du Crédit Immobilier de France ont manifesté aujourd'hui à Paris. Ils souhaitent se faire entendre face à la menace qui pèse selon eux sur l'établissement bancaire. Le CIF, spécialiste des prêts immobiliers aux particuliers, a vu sa note dégradée de 3 crans par Moody's et ne peut aujourd'hui se financer sur les marchés. L'État lui a porté sa caution dernièrement, mais depuis plus rien. Il demande donc ses salariés à l'État de reprendre le dossier pour que le CIF puisse soit émettre de nouveaux crédits, soit l'aider à retrouver un repreneur. Autre manifestation à Toulouse, cette fois plusieurs centaines de salariés de Sanofi se sont retrouvés aujourd'hui dans la ville rose. 600 postes sont menacés par un plan de restructuration voulu par le groupe pharmaceutique. Reportage sur place de Stéphanie Glésis.
Salsa du pognon, salsa des démons.
La direction de Sanofi a annoncé au début de l'été qu'une réflexion était en cours quant à l'avenir de ses sites de recherche, notamment à Toulouse et Montpellier. Le site toulousain fait partie des sites historiques de recherche pour le groupe Sanofi. Laurent Besson-Humbert, porte-parole de l'intersyndicale Sanofi, est informaticien.
Quand on dit on envisage de se désengager d'un site, c'est du politiquement correct, mais le concret, c'est nous, on a nos enfants, nos familles, à qui on va dire, le parent, il va au chômage. Il y a 100 millions d'euros qui sont mis pour la recherche médicale. Qui envisagerait aujourd'hui de supprimer le Téléthon. Sanofi veut supprimer 1,5 fois l'équivalent du Téléthon. C'est inadmissible.
Laurence Millet du syndicat Sud rappelle que Toulouse travaille notamment sur des médicaments contre la tuberculose et le cancer.
Les CHU ont des très bons classements, donc quand on nous dit que le tissu toulousain scientifique n'est pas bon, c'est un mensonge avéré. Et on a des choses et des molécules qui sont très très prometteuses. Et là, on nous coupe l'air sous le pied, on nous dit on ne vous soutient plus et on va fermer le site.
L'intersyndicale a aussi rappelé que le groupe Sanofi fait près de 9 milliards de bénéfices et touche chaque année de l'État 130 millions d'euros de crédit d'impôt recherche. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Inter.
Et vous écoutez justement France Inter, il est 16h04, c'est à vous Frédéric L'Odéon.
Merci Laetitia, merci beaucoup.
Carrefour de l'Odéon, avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre, dans 26 lieux du patrimoine francilien.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Demain 14 septembre, cela fera 30 ans que le très grand violoniste Christian Ferras nous aura quittés. Et oui, une vie courte, une mort prématurée et tragique, comme l'a écrit Yehudi Menuhin, qui nous enlève à tous, collègues, musiciens, public, un être possédé par la musique, immensément doué d'un tempérament à la fois généreux et intense. Je suis profondément ému, écrit encore Yehudi Menuhin, et bouleversé par la perte de cet ami et du violoniste dont j'attendais encore beaucoup sur tous les plans, en particulier une collaboration proche et utile, pédagogique et musicale. C'est vrai qu'après une carrière absolument extraordinaire, Christian Ferras, désespéré, passant de cure de désintoxication en cure de désintoxication, happé par le jeu aussi, attiré par les cartes, et qui avait perdu beaucoup, et même son violon, dit-on, à la fin de sa vie. Un jour, il s'est défenestré non loin d'ici, je veux dire de la maison de Radio France, près de la place de Barcelone, dans le 16e arrondissement. On lui rend hommage, 30 ans déjà, un beau coffret Deutsche Grammophon nous est proposé, l'art de Christian Ferras, et je trouve que cette circonstance que de vous demander de partager avec nous la vie brève danse espagnole de Manuel de Falla. Thank you. Danse espagnole de la vie brève de Manuel de Falla dans un arrangement de Fritz Kreisler interprété par Christian Ferras, disparu il y a presque 30 ans, ce sera demain la vraie date, je le rappelle, avec Jean-Claude Ambrosini au piano.